France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Le président chinois Xi Jinping viendra en visite officielle en France les 6 et 7 mai prochains. Si le principe en est acquis pour marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Paris et Pékin, l'organisation de la visite donne lieu depuis des semaines à d'interminables tractations. Comment s'accorder sur les priorités à privilégier à un moment où manifestement les intérêts géopolitiques divergent et le contexte économique s'est autant assombri ? La croissance chinoise n'a pas retrouvé son dynamisme pré-Covid, la consommation mollit, le régime subventionne une industrie en surchauffe qui écoule ses excédents à l'exportation tout en protégeant son marché intérieur. Voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires... En France, comme ailleurs en Europe, plusieurs acteurs de poids s'inquiètent à haute voix des ambitions de la deuxième économie mondiale. L'échiquier diplomatique est tout aussi fracturé. L'Ukraine peine à défendre la ligne de front face à l'agresseur russe. Le risque d'engrenage demeure au Moyen-Orient. Xi Jinping et Vladimir Poutine n'ont jamais paru aussi proches et la confrontation entre Pékin et Washington ne cesse de durcir. Dans un tel contexte, au-delà des effusions d'usage et des promesses d'échanges culturels, quels sont les objectifs visés par Emmanuel Macron recevant ainsi le dirigeant chinois ? Xi Jinping n'est plus venu en Europe depuis 2019. Il a toujours privilégié les relations bilatérales, une façon de diviser l'Union européenne et de dissuader les efforts d'atténuation des risques économiques. On l'a vérifié il y a une quinzaine de jours. Lors de la visite d'Olaf Scholz à Pékin, le chancelier allemand a fait volte-face. Plus question d'une riposte européenne unifiée face à la Chine. Retour au chacun pour soi. Qu'attendre donc de cette rencontre à Paris au plus haut niveau ? Ukraine, Moyen-Orient, le président français peut-il convaincre son homologue chinois de prendre quelques distances vis-à-vis de Vladimir Poutine, comme le souhaite Washington ? Quels bénéfices politiques, commerciaux, environnementaux peut-on espérer sur le plan bilatéral ? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous. Stéphanie Balme, vous dirigez le Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris. Agatha Kratz, ravie de vous accueillir. Vous dirigez à Paris le Rhodium Group, qui est l'un des centres de recherche et de conseil américains aux entreprises. Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales, et François Schmitz, économiste au sein du think tank Mercator, l'Institut des études chinoises, et au Centre d'études prospectives et d'informations internationales, le CEPI. Marc Julienne, cette difficulté manifeste à s'accorder sur un agenda, est-ce que cela reflète en fait le décalage entre les priorités côté français et côté chinois ?
Alors oui, il y a un décalage très clair entre les priorités de chacun. Si on veut peut-être grossièrement répartir les grands chapitres de coopération bilatéraux, en tout cas ceux sur lesquels la partie française aimerait avancer, il y a un premier très gros chapitre qui serait économique, sur lequel mes collègues économiques reviendront. Il y a un second chapitre qui est les grandes affaires de sécurité internationale, et là l'actualité est chargée. Évidemment, la guerre en Ukraine, qui est l'une des priorités de l'agenda, je dirais de manière générale, de politique étrangère de la France actuellement, et puis désormais le Moyen-Orient, donc sur lesquels on aimerait avancer avec la partie chinoise. Et puis il y a un troisième volet qui concerne plutôt la gouvernance mondiale, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, sujets qui sont combien chers au président Macron, puisqu'il a été très proactif sur la scène internationale dans ces domaines-là. Et donc sur chacun de ces domaines, en tout cas sur les deux premiers, on voit finalement que les incompréhensions, que les dissensions s'accumulent et qu'il est de plus en plus difficile d'avancer à la fois sur la question du commerce bilatéral, de l'inégalité ou du moins de la déloyauté dans les échanges. Sur la question internationale, eh bien, sur l'Ukraine, force est de constater qu'on a pu obtenir aucune avancée, aucune concession de la part de la Chine pour tenter peut-être de faire pression sur Vladimir Poutine.
Et au contraire, semble-t-il, la Chine livre des composants qui sont devenus vitaux pour l'industrie militaire russe.
Alors oui, la question du soutien militaire de la Chine à la Russie est quand même encore compliquée, puisqu'il est bien clair que la Chine, depuis le début, aide l'économie russe dans son ensemble. Pas nécessairement le...
Et pour son plus grand bénéfice, ayant à prix cassé du pétrole, du gaz,
c'est ça.
Blé.
La Chine en tire des bénéfices très importants. Sur la dimension militaire, ce que l'on sait et ce qui est su, c'est que la Chine fournit des technologies à double usage. Donc par exemple, ça peut être des drones civils ou ça peut être des composants, notamment électroniques, qui vont entrer dans la fabrication de matériel militaire. Donc ce n'est pas une aide de la part de la Chine qui est directement en termes d'armement et d'armement létaux. Et encore moins dans une dimension massive. Bon, si on écoute les Américains depuis les deux dernières années, et particulièrement depuis deux semaines, il y a des informations parfois anonymes, parfois qui prennent le visage d'Anthony Blinken, qui disent que les Américains ont des informations sur le fait que la Chine s'apprête à fournir un soutien massif militaire à la Chine. Et en général, ces communications se produisent avant des rencontres de haut niveau sino-américaines ou sino-européennes. Donc je pense qu'il y a une dimension aussi de communication et de pression à la fois sur la Chine et sur les alliés dans ce moment-là.
Avec l'espoir qu'Emmanuel Macron réussisse à convaincre Xi Jinping de...
Alors c'est là je pense qu'il y a une ambiguïté en Europe et en France, ça semble toujours être le cas, une ambiguïté sur le fait que quand on veut parler de l'Ukraine à Xi Jinping, on veut d'un côté l'engager à nous aider à faire pression sur Vladimir Poutine et essayer de trouver une solution à ce conflit, et dans le même temps, l'expression est adaptée, en même temps on cherche aussi à faire pression sur Xi Jinping lui-même pour qu'il ne soutienne pas plus avant la Russie sur le plan militaire. Mmh. Et donc là, je pense qu'il y a une incompréhension que l'on a de la position véritable de la Chine dans la guerre en Ukraine, puisqu'on ne peut pas à la fois vouloir que Xi Jinping nous aide, nous, et craindre en même temps que Xi Jinping aide Vladimir Poutine. Donc je crois qu'il faudrait se mettre au clair sur qu'est-ce que cherche à faire la Chine, ou à ne pas faire, surtout, je pense, dans la guerre en Ukraine, et quelle est véritablement la nature du partenariat avec la Russie.
Stéphanie Balm, on se souvient... juste avant le Covid, c'était au mois de mars 2019, Xi Jinping est venu à Paris et à ce moment-là, Emmanuel Macron a reçu le président chinois, mais il était entouré d'Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, et de Jean-Claude Juncker, qui était à l'époque le président du Conseil européen. Cette fois, donc, le 6 mai prochain, non, il n'y aura que le président français, donc il n'y a pas d'affichage d'unité européenne face à la Chine. Est-ce que cela veut dire que les priorités de la France se dissocient des priorités communes européennes ?
Alors, c'est une question qui est posée avec beaucoup de regards critiques, et ce qui est tout à fait... légitime, mais en réalité, je pense que la réponse est plus complexe que ça. D'une part, pour faire une transition avec ce que Marc-Julienne vient de dire, une autre raison importante de cette visite, c'est quand même le recentrage sur la relation franco-chinoise. N'oublions pas, on fête le 60e anniversaire du lancement officiel de la reconnaissance, en fait, de la RPC par la France le 27 janvier 64. Et donc, ce que je voudrais proposer comme hypothèse à mes collègues, c'est de dire que autant en 64, quand la Chine est reconnue par la France, la Chine a besoin de cette relation avec la France pour apparaître comme une future grande puissance, puisque la Chine n'est pas encore membre des Nations Unies. En revanche, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, cette relation franco-chinoise est une des rares relations qui permet toujours à la France de croire ou peut-être d'être encore une grande puissance. C'est-à-dire que cette relation Emmanuel Macron-Xi Jinping, c'est aussi une façon de dire que la Chine est importante en termes de politique intérieure française, pour situer le président français comme le président qui conçoit la politique étrangère, que la politique étrangère reste le domaine réservé du président de la République sous la Ve République, que par ailleurs c'est un grand dirigeant qui se veut un grand dirigeant européen et qui impulse, au nom de l'Union européenne, une politique spécifique en raison de la particularité de la relation entre la France et la Chine. Et ces particularités, c'est objectivement le fait que seule la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, que les relations franco-chinoises, elles sont extrêmement anciennes. Elles datent du temps, même avant Louis XIV officiellement, et etc. Elles n'ont pas toujours été faciles, mais quand en 64, le général de Gaulle les institutionnalise, c'est aussi parce que il a à cœur de montrer qu'il est indépendant par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, probablement qu'on est indépendant par rapport à l'Europe tout en lançant un projet européen. Que culturellement, cette relation, elle est très forte. C'est pas pour rien que le général de Gaulle avait demandé à Malraux, il y a des grands sinologues français qui étaient des grands spécialistes de la Chine, de bâtir cette relation. Et puis aussi, la France, c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne et aussi la deuxième puissance maritime du monde. Tout ça pour dire que quand M. Macron reçoit M. Xi Jinping, il essaye de lui dire « je suis plus grand, moi, dirigeant de la France, que les frontières de mon pays ». Donc c'est ça qui est important, à mon avis, de voir, c'est que ce n'est plus la Chine qui peut apparaître comme une grande puissance dans sa relation bilatérale avec la France, mais la France établissant ses relations, enfin continuant ses relations avec la Chine, essaye de montrer qu'en fait on est plus grand que ce qu'on est. Pour répondre à votre question...
Oui, c'est d'ailleurs parfois ce dont nous accusent très très régulièrement les 26 autres membres de l'Union européenne. Néanmoins, pardon Stéphanie, je vous interromps, parce que je voudrais demander à Agatha Kratz, donc du Rhodium Group, on voit bien que partout en Europe, et surtout au niveau des grandes économies, Stéphanie a raison, la France, évidemment, ce n'est pas le Luxembourg, encore que le Luxembourg est le pays le plus riche de l'Union européenne. Néanmoins, Agatha, les angoisses européennes communes face à l'avalanche d'exportations chinoises, et en particulier des véhicules électriques, favorisés bien sûr par le pacte vert et l'idée qu'il faut électrifier au maximum, les angoisses sont communes, y compris oui. Bien évidemment pour les industriels français.
Oui, et il faudrait ajouter, y compris pour les industriels allemands, et on arrivera à l'Allemagne, j'imagine, dans une minute. Ce qui est très intéressant, en fait, je pense dans la situation française et dans la relation franco-chinoise, c'est la dualité qu'on voit entre, en tant qu'économiste, je regarde ça avec un aspect très commercial, finalement, mais entre ce désir de maintenir une relation diplomatique de haut niveau extrêmement positive, qui reflète quand même le fait que l'industrie européenne, mais l'industrie française en particulier, est très dépendante du secteur du luxe, des secteurs de consommation, de grande consommation en Chine, qui sont très très sensibles à cette relation diplomatique. Parce que si cette relation diplomatique se détériore, comme en Suède, on commence à taper sur H&M. Quand elle se détériore, comme avec les États-Unis, on commence à taper sur Nike. Et donc, dans un pays comme la France, où la plupart des exportations vers la Chine restent des exportations vraiment axées sur le luxe et les consommateurs qui sont facilement finalement influençables dans le contexte actuel politique chinois avec un contrôle des masses qui est quand même très important. Il y a cette nécessité d'avoir une relation diplomatique à haut niveau qui soit une très bonne relation diplomatique. Mais derrière ça, et c'est là où il y a une dualité, derrière ça, il y a une très grande partie de l'économie française qui n'exporte plus en Chine. On peut penser aux rails, on peut penser aux grands constructeurs comme Bouygues, on peut penser à énormément d'entreprises dans l'énergie et qui, elles, sont extrêmement inquiètes de ce qui pourrait être effectivement une surcapacité chinoise ou des exportations à très bas prix chinois qui pourraient se déverser sur le marché européen et qui, elles, poussent très fortement pour l'utilisation au niveau européen d'ailleurs, mais au niveau français aussi, d'instruments de défense commerciale contre les subventions internationales, etc. Et donc, qui s'associent finalement et qui s'alignent très très bien avec le reste des pays de l'Union européenne aujourd'hui qui sont quand même très inquiets de la situation économique en Chine.
Il y a eu l'appel du patron de Renault, Luca Di Meo, disant « Attendez, ça va être une déferlante, les véhicules électriques ». Il y a eu aussi, et ça c'était tout à fait intéressant, le discours de Mme Vestager, qui est donc la commissaire européenne à la à la concurrence, un discours, je crois, à Princeton, aux États-Unis, où là, elle a été véritablement extrêmement vigoureuse, à la danoise, sur le thème, mais attention, là, la Chine va nous inonder, et il faut donc s'organiser. Mais Agatha, on a vu aussi le chancelier allemand, qui était à Pékin, accompagné d'une importante délégation industrielle allemande, véritablement, très poliment, accepter en quelque sorte les conditions chinoises et ne pas obtenir grand-chose en échange.
Oui, absolument. Alors, il y a une chose à dire, c'est que je ne pense pas que qui que ce soit puisse obtenir grand-chose à l'heure actuelle du président chinois, puisqu'en fait, cette politique de soutien du secteur manufacturier, de l'industrie et de l'exportation est très existentielle en Chine, parce que la croissance est tellement basse, elle est tellement en berne qu'en fait l'exportation est finalement l'une des lignes de vie pour l'économie chinoise.
Et donc du coup, ils ont quand même annoncé 5,3% de croissance.
Oui, alors
enfin les chiffres.
Exactement. On peut rentrer dans une grande discussion sur ce sujet-là. Rhodium Group pense que l'année dernière la Chine n'a pas cru à plus de 5%, mais plutôt à 2%, parce qu'en fait avec un secteur de l'immobilier en berne et des consommateurs qui ne consomment pas, c'est impossible mathématiquement d'arriver à 5%. Mais c'est une très longue conversation qu'on peut avoir plus tard. Mais effectivement, mais dans ce contexte-là, si vous voulez, on a une économie vraiment qui est à part, qui est l'économie allemande, qui dépend beaucoup plus que les autres économies européennes du marché chinois, qui a des grosses entreprises comme BASF et comme Volkswagen qui dépendent extrêmement du marché chinois. Et aujourd'hui, nos chiffres montrent qu'à peu près 80% de l'investissement européen en Chine, c'est à peu près 10 entreprises, et au sein de ça, 40-45%, c'est des entreprises allemandes dans le secteur de l'auto. Donc on peut comprendre qu'il y ait une grande inquiétude, et on peut comprendre aussi que ces entreprises-là se sentent en danger, puisqu'en fait, si l'Europe commence à mettre en place des droits de douane sur les véhicules électriques, c'est elles qui seront dans la ligne de mire et dans la ligne de tir de la rétaliation chinoise.
En même temps, ils n'arrivent pas, semble-t-il, à rapatrier leurs bénéfices. Donc, ils réinvestissent en Chine. Ils sont quand même, eux aussi, en quelque sorte, prisonniers de la...
Absolument. Et ils sont prisonniers aussi parce que la plupart, maintenant, à ce niveau-là, et dans l'histoire de l'automobile, qui est maintenant une histoire d'électrification et de conduite autonomique.
Et connectée.
L'innovation se passe en Chine. Et ça, c'est indéniable. Et donc, en fait, il y a quand même une vraie attraction du marché chinois pour son pouvoir d'innovation, parce que probablement les meilleures entreprises automobiles du monde sont aujourd'hui en Chine. Et donc, il faut être sur le terrain. Mais par contre, il faut aussi savoir protéger des emplois et des industries européennes.
François Schmitz, quels peuvent être les bénéfices pour l'économie française de la visite de Xi Jinping? Quelles peuvent être les attentes en termes d'investissement, en termes de partage précisément de ces progrès technologiques de la Chine, au moment où, au contraire, les États-Unis, de plus en plus protectionnistes, essaient de ralentir le développement de la technologie chinoise?
Alors, contrairement à il y a quelques années de cela, je pense que l'ambition politique côté français, comme on a pu le voir d'ailleurs côté allemand pour la visite de Scholz en Chine, ne sont plus dans des grandes annonces fracassantes de montants de contrats signés. Et je pense que d'ailleurs par le passé, ces grandes annonces étaient très souvent, enfin, en tout cas, nous conduisaient à surévaluer l'importance de cette dimension purement politique à très haut niveau dans l'approfondissement des relations économiques bilatérales. Il reste quand même un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut espérer voir des avancées, côté français. C'est bien évidemment la coopération autour des sujets du nucléaire et notamment du retraitement des déchets, où il existe des négociations en cours depuis très longtemps et où des grands acteurs français espèrent bien évidemment un approfondissement de leur présence en Chine, où le marché se développe de manière extrêmement dynamique. Et ensuite, il y a tout un pan de nouvelles considérations dans l'approfondissement de ces relations, que vient d'ailleurs d'évoquer Madame Kratz, qui est cette idée que sur pas mal de secteurs, la Chine commence à atteindre ce qu'on appelle la frontière technologique. Et que pour nos acteurs, en particulier français, qui pourraient ne plus tout à fait être en contact de cette frontière technologique et de ces performances technologiques de pointe, les partenariats avec des entreprises chinoises deviennent essentiels. Et c'est des choses qui s'inscrivent plutôt dans la continuité de ce qu'on voit maintenant depuis un ou deux ans, avec des signatures de partenariats et de coopération, soit de recherche, soit de production, soit les deux, bien évidemment dans l'automobile et dans les véhicules autonomes. D'ailleurs, à ce titre, c'est l'un des partenariats cadres qui a été obtenu par Scholz lors de sa visite, mais aussi bien évidemment dans tout ce qui a trait aux industries vertes, que ce soit les batteries, que ce soit les panneaux solaires ou des composantes sous-jacentes à ces différents produits. Et ensuite, les questions liées aux minéraux critiques, aussi bien leur extraction en elle-même en pays tiers, où on voit par exemple des entreprises françaises comme Orano établir des liens profonds en marché tiers avec des partenaires chinois, mais aussi dans les technologies ensuite de retraitement et de raffinage de ces minéraux pour ensuite pouvoir les utiliser comme intrants dans tout un secteur industriel. Et enfin, dernier élément, avec là une ligne de crête assez étroite pour un acteur français qui est quasiment à peu près le seul sur ces enjeux-là, qui est la question des semi-conducteurs ou des puces microélectroniques, où vous avez STI Micro qui à la fois essaie d'approfondir ses partenariats avec certains acteurs, notamment américains, pour développer des capacités autour de Grenoble, mais à renforcer ses coopérations en recherche et en capacité de production en Chine avec différents acteurs pour justement être en capacité de pouvoir rattraper ou en tout cas accélérer le développement de microprocesseurs avancés et aussi de capacités de production sur des microprocesseurs moins avancés. Et peut-être qu'il est important de souligner aussi que la dimension de cette visite, je pense, sera plus politique que strictement économique. À la fois parce qu'il y a cette ambition de signal que j'ai évoquée au début qui a évolué. On ne veut plus inscrire la relation chinoise sous uniquement des contrats aux chiffres ronflants, mais on veut en faire un partenariat stratégique. Et cette volonté est partagée des deux côtés, pour des raisons probablement tout à fait différentes sur lesquelles on reviendra. Mais donc, je ne pense pas qu'il faille attendre principalement des annonces du côté de l'économique, mais plutôt des volontés d'envoyer des signaux de coopération et d'approfondissement des coopérations stratégiques sur des sujets plus politiques, voire géopolitiques, que ce soit bien évidemment les questions évoquées précédemment sur les tensions internationales, mais aussi sur les questions climatiques, voire même sur les questions de régulation de la mondialisation et d'organisation de l'ordre international, avec bien évidemment la réforme de l'OMC, mais aussi un enjeu qui est souvent un peu ignoré dans la discussion française, mais qui est très importante pour beaucoup de nos partenaires, qui est celle de la restructuration des dettes des pays émergents, où la France et la Chine occupent une place extrêmement prééminente dans cette discussion. Et d'ailleurs, les deux pays co-président le club des créditeurs auprès de la Zambie, qui est l'un des cas d'école, en tout cas des cas d'études, de cette nouvelle manière de faire pour essayer de réinscrire certains pays émergents sur des dynamiques d'endettement soutenables et donc de maintenir leur perspective de développement et de croissance.
Stéphanie Balm, du point de vue chinois, quelles peuvent être les attentes d'une coopération renforcée avec la France? Quels sont les secteurs d'intérêt vus par Pékin?
Alors, je vais aussi un petit peu compléter, je vais vous répondre très vite et je vais aussi compléter ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, parce que c'est une chose d'égrener tous les sujets qui pourraient être évoqués dans une réunion comme celle-ci, c'en est une autre, c'est-à-dire des priorités. Et la priorité, probablement, elle est politique, là, je l'ai dit, c'est à la fois asseoir M. Macron comme grand chef international, c'est que la Chine n'oublie pas que la France peut être importante pour régler d'autres problèmes. Et en fait, quand on dit que la Chine négocie beaucoup une relation bilatérale dans le contexte multilatéral européen, c'est aussi vrai des partenaires européens et singulièrement de la France. Donc, si vous voulez, il faut se rappeler que la relation franco-chinoise a été abîmée un temps, notamment par les réactions de l'actuel ambassadeur de Chine en France, Monsieur Lou Chaillet, qui a pu tenir des propos au moment du Covid, après, très durs à l'égard de la France, et qui même parfois aussi s'est permis des attaques ad hominem sur certains experts français. Et donc cette relation a été tendue. Évidemment, l'idée, c'est de revenir à une relation particulièrement cordiale, voire stratégique, entre la France et la Chine. Et
avec ce charmant ambassadeur toujours en place. Hein.
Voilà, exactement. Oui. En insistant sur une dimension qui est la dimension stratégique de la France utilisée à bon escient, qui est la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle à la France est un des grands outils. Également la diplomatie autour de la coopération judiciaire, de la coopération scientifique, du développement, etc., de l'AFD qui est très présent en Chine. Tous ces éléments qui sont des éléments qu'on appelait autrefois de soft power, mais qui sont en fait devenus extrêmement importants pour construire la relation bilatérale, qui, quand on les observe, parfois peuvent avoir l'air un peu traditionnels il faut qu'ils soient consensuels dans un contexte où le régime politique, le contexte de l'autoritarisme chinois, où on peut pas évidemment tout à fait exporter de la culture underground en Chine et que les choses sont assez consensuelles. Mais néanmoins, j'invite vraiment les auditeurs à regarder le splendide programme qui est conçu cette année dans le cadre de l'année franco-chinoise, de part et d'autre, des événements au Musée Guimet, à l'exposition Marc Riboud qui est prévu dans le Hunan en Chine. Tout ça est fondamental. Pourquoi ? Parce que en plus de la relation de la diplomatie culturelle, un des acteurs très importants de la relation bilatérale, c'est la société civile, c'est-à-dire les échanges humains entre la France et la Chine, le nombre de mariages mixtes, le nombre d'étudiants, le nombre d'accords qui sont de villes, par exemple.
Oui, mais pardon Stéphanie, enfin à condition de pouvoir y aller et à condition de pouvoir exercer un minimum de liberté à un moment où le régime chinois s'est extraordinairement durci. Vous parlez de la culture, on se souvient aussi qu'à Nantes, l'exposition Gengis Khan, tout à coup, côté chinois, on pouvait plus parler ni de Gengis Khan, ni des Mongols. Donc, matière culturelle, hélas, il y a des contraintes qu'on sous-estime parfois.
Non, personne ne les sous-estime. Personne, je pense, certainement pas nos diplomates et les experts chinois, trop peu d'ailleurs, dont l'expertise est trop peu utilisée par notre gouvernement actuel, je tiens à le souligner. Mais je pense pas que personne ne sous-estime cette difficulté. Mais en réalité, il y a cet objectif qui est d'éviter cette tendance américaine qui consiste à découper le monde en deux et d'essayer de tendre la relation, et l'idée d'essayer d'utiliser ce qui permet de construire de la relation de très long terme au-delà du régime politique actuel et en s'appuyant sur des sociétés civiles qui se connaissent assez bien. C'est une dimension qui est souvent ignorée, fort importante. Et quand vous me disiez qu'est-ce que la partie chinoise attend, donc la partie chinoise attend effectivement une forme d'apaisement, parce que la Chine a également besoin de regagner la confiance des investisseurs internationaux, mais notamment les Européens. Elle a aussi besoin de sortir de cette relation obsessionnelle avec les États-Unis qui est très déconstruite aujourd'hui et qui est dans un conflit de puissance, et aussi parce que le territoire européen constitue aussi l'aboutissement de la route de la soie terrestre. Et donc, la Chine est aussi une grande puissance parce qu'elle a un projet européen. Et elle va en parler à Emmanuel Macron par l'intermédiaire de Xi Jinping lorsqu'ils vont se retrouver.
Précisément, Marc Julien, ce projet européen de la Chine, Xi Jinping ira, après Paris, si j'ai bien compris, il ira en Serbie, à Belgrade. On se souvient qu'au moment du Covid, le président serbe Vučić, alors la Serbie n'est pas dans l'Union européenne, néanmoins, Vučić embrassait pratiquement sur le tarmac de l'aéroport de Belgrade l'image de Xi Jinping. Les livraisons à l'époque, et on le comprend d'ailleurs, les livraisons de masques et de matériel médical anti-Covid étaient bienvenues. Mais cette visite à Belgrade, et une visite aussi, semble-t-il, à M. Orban à Budapest, en Hongrie, cela veut dire quand même que le projet chinois consiste toujours à pénétrer, et en fonction de ses priorités à lui, l'Europe, et par l'Europe centrale.
Oui, et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Finalement, il va voir peut-être les pays qui lui sont le plus favorables, donc c'est normal. Mais par contre, je pense que du côté français, ça n'a pas nécessairement beaucoup plu d'être mis dans le même panier que la Hongrie et la Serbie. Ça, c'est clair. La France était considérée ces dernières années peut-être comme un partenaire privilégié avec un rôle un peu spécial dans l'Union européenne. Il faut rappeler la visite du président Macron en Chine en avril 2023, qui a été une visite en grande pompe et qui s'est, en tout cas du point de vue chinois, s'est extrêmement bien passé, qui a été un grand succès. François Chimie disait tout à l'heure que bon, les résultats, ce qu'on a obtenu en termes économiques, etc., sont peut-être à relativiser. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais donc, en tout cas, la Chine, dans une tendance de fond, de relations qui se crispent entre l'Union européenne et la Chine, le partenaire français avait un rôle justement assez spécial et les 60 ans de la relation diplomatique sont une opportunité justement de développer cela. Désormais, on peut s'interroger après la visite de Scholz et avec les difficultés que la France a, qu'on a souligné à plusieurs reprises dans la relation avec la Chine, on peut s'interroger si finalement maintenant le balancier ne bascule pas de l'autre côté et que c'est pas l'Allemagne qui va conquérir son rôle de partenaire privilégié de la Chine avec cette visite de Scholz. Peut-être pour rebondir aussi ce qui avait été dit juste avant par Stéphanie Balm, le fait qu'il faut justement instaurer des priorités, je suis tout à fait d'accord. Je serais peut-être pas d'accord justement sur les conclusions à tirer. Je pense qu'il faut pas surestimer la dimension symbolique de l'anniversaire. Il est très important. Et des relations culturelles qui sont également très importantes et je les sous-estime pas du tout, mais je pense que c'est sans doute plutôt une sorte de lubrifiant dans la relation bilatérale, quelque chose qui est utile et qui favorise que les deux parties soient dans de bonnes dispositions pour partager, pour échanger, pour dialoguer. Mais moi, les priorités, je les mettrais malheureusement et de manière un peu peut-être trop terre à terre, mais sur la dimension économique, sur les affaires internationales ou sur les questions de changement climatique qui sont une urgence globale et sur lesquelles la présence française semble active, en tout cas au niveau global, j'insiste.
Précisément, Agatha Kratz, on comprend aussi que cette visite s'inscrit dans un contexte économique dominé véritablement par la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui viennent d'annoncer qu'ils vont tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Les États-Unis qui ont fait pression sur les Pays-Bas pour que le seul vrai grand européen en matière de semi-conducteurs est néerlandais, bon, qu'ils arrêtent d'exporter leurs produits les plus aboutis en Chine. Donc, comment peut-on se situer, comment est-ce que la France peut se situer dans un contexte aussi tendu?
C'est un contexte qui est compliqué, évidemment. Ce qui est intéressant et ce que je voudrais rappeler, c'est que on a évidemment une confrontation chine-US qui est centrale et qui est beaucoup plus visible finalement que toute autre confrontation à l'heure actuelle. C'est vraiment le paradigme géopolitique de l'année et des 5 dernières années pour étendre. Mais il faut pas sous-estimer le fait que la relation Chine-UE, dont la France fait partie évidemment, que la relation Chine-Union européenne a aussi énormément évolué ces 5 dernières années et qu'il y a beaucoup de ressemblances et beaucoup d'alignement entre les inquiétudes américaines et les inquiétudes européennes, spécialement dans le domaine économique, et que on a vu l'Europe lancer énormément d'outils, d'initiatives pour essayer aussi de régler ces inquiétudes. Donc évidemment, les États-Unis sont en train de déployer énormément de contrôles de technologie, des contrôles à l'exportation. Ils sont en train de lancer tout un programme pour essayer de restreindre les importations chinoises pour tout ce qui est des véhicules connectés qui pourraient ensuite s'étendre à d'autres technologies connectées.
Et donc là, qui dit connexion dit évidemment sécurité.
Deux problèmes principaux de cybersécurité et de transmission de données qui pourraient être abusé. Et donc avec des problèmes à la fois d'espionnage et de sabotage. évidemment.
Et donc, ce projet de loi aux États-Unis pour contraindre TikTok, enfin ByteDance, donc l'entreprise propriétaire de TikTok, à vendre évidemment une entreprise américaine, on va voir si ça aboutit. Mais l'Union européenne a aussi lancé une enquête très récemment sur TikTok Lite, qui, si j'ai bien compris, rétribue ses utilisateurs. Donc, on voit bien que, voilà, il y a une inquiétude commune.
Et en fait, on voit vraiment qu'il y a un rapprochement de plus en plus, un alignement de plus en plus des inquiétudes côté américain, côté européen et côté japonais. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les Japonais dans cette configuration parce qu'ils sont extrêmement importants. Les États-Unis jusqu'ici étaient très, très axés technologie à usage dual, semi-conducteur. Nous, on était très, très... on a beaucoup fait dans le domaine économique et les Japonais beaucoup sur l'aspect résilience et diversification hors de Chine. Mais maintenant, on voit vraiment qu'il y a une espèce de théorie, theory of harm en anglais, mais de théorie du problème que rencontrent tous ces pays occidentaux et le Japon, qui allie les aspects cyber, qui allie les aspects économiques et notamment économie et pratiques économiques non justes, qui allie l'aspect données, vous en parliez il y a une minute, qui allie l'aspect usage dual et militaire et stratégique, et qui allie enfin tout ce qui est de toutes les considérations autour des standards internationaux et notamment en termes de standards au travail et de standards environnementaux. Et là-dessus, la France est très, très vocale et on a vu des déclarations de Bruno Le Maire ces dernières semaines qui dit qu'il faut évidemment que le commerce soit ouvert, mais qu'il faut aussi qu'il soit juste et soutenable. Et dans cette optique-là, que des voitures chinoises ou des produits chinois produits en Chine avec des standards, que ce soit en termes de droit du travail ou que ce soit en termes d'empreintes environnementales, si ces standards ne sont pas les mêmes en Chine qu'ils sont en Europe, on est forcément dans une situation problématique qu'il faut régler dans les années qui viennent.
François Schmitz, on comprend que l'Union européenne reste quand même, pour la Chine, c'est son premier marché en termes de rapport de force, mais jusqu'où est-ce que Pékin a intérêt à ménager les Européens, à les flatter dans certains cas, avec l'espoir, là aussi, de ne pas suivre le diktat de Washington, toutes les mesures protectionnistes mises en place par les États-Unis, dont les Européens souffrent aussi d'ailleurs. Quelle peut être la stratégie chinoise sur ce plan-là ?
Alors c'est parfait parce que ça va me permettre de revenir sur pas mal des points qu'ont soulevé mes collègues et qui sur lesquels je voulais éventuellement rapporter quelques éléments. Et le premier d'entre eux, je pense qu'il est important de souligner que dans tout le langage chinois officiel, quand on regarde, l'Union européenne n'est perçue qu'au prisme de la concurrence, voire de la conflictualité des grandes puissances, enfin de la grande puissance chinoise avec son donc concurrent américain. Et à cet égard-là, il faut quand même, je pense, être clair sur l'importance qu'accorde Pékin à l'Union européenne et à la France. Nous ne sommes qu'un élément de cette grande équation-là, et d'ailleurs, la position de la Chine vis-à-vis de l'invasion par la Russie de l'Ukraine reflète cet ordre de priorité. Si d'aventure les Chinois avaient estimé qu'il était essentiel de maintenir la qualité du lien économique et des coopérations politiques avec les Européens, on aurait vu une Chine qui aurait probablement pris une posture autre que celle de sa neutralité pro-russe qu'on voit actuellement. Et à ce titre, je veux quand même souligner vraiment que sans la Chine actuelle et sans son soutien de fait à l'économie russe, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Ou en tout cas, il n'y aurait pas eu une guerre qui aurait pu durer aussi longtemps. Et je pense qu'il est important quand même de rappeler cet élément qui vient remettre en cause nos intérêts stratégiques fondamentaux et notre sécurité nationale. Face à ça, les Chinois veulent donc essayer de se ménager un peu la chèvre et le chou, donc de maintenir le partenariat stratégique avec les Russes tout en maintenant un accès ouvert et des échanges économiques dynamiques avec l'Union européenne. Et je pense, hélas, que c'est
cette lecture-là qui explique l'intensité des relations diplomatiques bilatérales franco-chinoises depuis maintenant 4 à 5 ans. Le conseiller diplomatique de M. Macron, M. Beaune, est probablement l'interlocuteur le plus fréquent au niveau européen du conseiller diplomatique de M. Xi Jinping, qui est M. Wang Yi. Et on voit se déployer dans le narratif chinois et dans la logorée diplomatique qu'il déploie autour de cette relation, en effet, une intention très claire de jouer sur la fibre, on va dire, traditionnelle française. Et donc vous retrouvez dans les think tanks chinois l'éloge qui est faite de la position diplomatique française gaulo-mitterrandienne, l'éloge de la troisième voie, l'éloge de la multipolarité, autant d'éléments de langage que on retrouve en général dans les discussions en France sur notre positionnement diplomatique et qui viennent un peu flatter notre inconscient, notre passif de grande puissance. Et donc, je pense qu'il faut être là-dessus, avoir là-dessus un œil assez clair et cela n'empêche pas, par ailleurs, une position aussi intelligente, on va dire, et fine des autorités françaises. Et d'ailleurs, on le voit bien dans ce que les autorités françaises font dans la stratégie européenne vis-à-vis de la Chine, où on voit en effet une France extrêmement allante pour que l'Union européenne adopte une posture plus ferme dans la défense de ses intérêts économiques et en particulier dans la bonne régulation et la bonne réglementation de ces marchés vis-à-vis des pratiques soit anticoncurrentielles, soit qui contreviennent à nos règles de marché, notamment dans le secteur digital, en parallèle d'une approche bilatérale franco-chinoise qui veut maintenir en effet un bon dialogue sur les enjeux diplomatique. Et c'est là cette ligne, cette corde raide qu'on essaie de maintenir, avec la difficulté bien évidemment de la confiance de nos partenaires européens qui nous voient être très allants pour amener l'Union européenne dans une posture un peu plus conflictuelle dans la défense de ses intérêts économiques avec la Chine, et dans le même temps qui voient en tout cas nos autorités, en particulier notre président, développer une relation de confiance et de partenariat avec Xi Jinping et signer, ou en tout cas qui amène à la signature de contrats économiques. Et c'est toute cette tension-là qu'il va être difficile, je pense, qu'il faut réussir à contenir, en tout cas, et bien évidemment, les mesures de l'Union européenne qu'on a vues maintenant depuis 6 mois, qui se sont beaucoup accélérées ces derniers mois, bien évidemment en perspective des élections, contre les pratiques de distorsion de concurrence chinoise, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans l'éolienne, ou bien évidemment dans les véhicules électriques, servent aussi à marquer le coup vis-à-vis des Chinois pour dire que voilà, nous voulons marcher sur les deux jambes, une jambe d'affirmation de nos intérêts économiques et une jambe d'approfondissement de nos relations diplomatiques. Et c'est exactement le message qu'est allé porter M. Séjourné, je crois, si on se réfère aux communiqués qui en sont ressortis, lors de sa visite de préparation il y a un mois de cela à peu près, à Pékin, en vue de la visite de Xi Jinping. Maintenant, la question qu'il se pose, je pense pour nous, c'est de savoir si la réaction chinoise en l'état, qui accepte pour le moment cette stratégie, on va dire, un peu duale, est-ce qu'elle est circonscrite à la temporalité du moment qui sont les perspectives des élections européennes, mais surtout les perspectives des élections américaines, où les Chinois veulent se ménager la possibilité d'approfondir éventuellement les relations avec les Européens pour éviter un rapprochement plus étroit transatlantique vis-à-vis de la Chine, ou est-ce qu'elle est plus profonde et donc plus soutenable? Je pense que la question se pose. À titre personnel, je crains en effet que la posture chinoise actuelle, relativement conciliante, soit amenée à changer après les élections américaines, en particulier si on a un président Trump qui rend peu probable les perspectives de rapprochement européen, enfin transatlantique sur la question. Et à ce moment-là, on risque de voir les Chinois revenir à leur pratique traditionnelle en matière de diplomatie économique, qui est de systématiquement répondre très vertement à toute attaque vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme étant leurs intérêts économiques.
Mais précisément, Agatha Kratz, on voit bien que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, c'est-à-dire 12 ans, la fermeté idéologique l'emporte sur le pragmatisme, avec les conséquences sur l'évolution même de l'économie chinoise, la perte de confiance du côté des consommateurs chinois, le chômage des jeunes, qui a tellement des jeunes diplômés, qui a tellement augmenté que du coup, le régime a décidé de ne plus publier de statistiques sur cette question. Mais on n'imagine pas que Xi Jinping change de trajectoire en fonction des pressions américaines d'un côté, du durcissement américain d'un côté, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle américaine en novembre, pas plus que du durcissement d'une position européenne commune.
Oui, absolument. Je pense que, en fin de compte, si Xi Jinping change de position, ce sera pour des raisons domestiques. C'est-à-dire qu'il est très très peu probable dans le contexte actuel, et étant donné ce qu'on sait de la diplomatie chinoise de ces dernières années, que Xi Jinping cède à la pression des Américains ou cède à la pression des Européens, dans un contexte économique difficile où l'intérêt ou l'objectif principal c'est de maintenir la paix sociale et la paix politique dans le pays, de céder à ces intérêts-là extérieurs, dans un contexte où vraiment la rhétorique chinoise a été une rhétorique de mise en avant des forces externes négatives qui pèsent sur le pays, c'est impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce qui cloche économiquement en Chine correspond à ce qui cloche économiquement chez nous et ce qu'on reproche à la Chine. C'est-à-dire que l'incapacité de la Chine à l'heure actuelle et de son gouvernement à relancer la croissance est très liée, est un espèce de produit d'une ex-croissance. L'augmentation des exportations chinoises à bas prix est une excroissance de cette situation-là. Et donc, du coup, si l'on résout l'un, on peut potentiellement résoudre l'autre. Mais je pense que la motivation ne viendra pas de la pression américaine ou européenne, elle viendra intérieurement de Chine. Est-ce que Xi Jinping est, à l'heure actuelle, en mesure ou déterminé à changer la direction économique du pays? Je ne le pense pas, parce qu'en fait, s'il avait concédé les réformes nécessaires pour que le pays aille mieux économiquement il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus facile. Il y a 10 ans, la Chine était une économie de 50% de la taille qu'elle a aujourd'hui, beaucoup moins complexe, beaucoup moins développée, beaucoup moins mature, et c'est beaucoup plus facile de réformer une économie moins mature que plus mature. On voit très bien en France la difficulté de changer un système qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus institutionnalisé, etc. Et donc aujourd'hui, le coût des réformes, si Xi Jinping devait s'y lancer et s'y mettre, serait extrêmement, extrêmement élevé, parce que ça impliquerait de réformer les entreprises d'État, qui emploient énormément de personnes en Chine, évidemment, et qui sont une très, très grosse contribution du PIB. Ça reviendrait à réformer le système financier, avec le risque vraiment sous-jacent de créer une crise financière qui aurait un effet désastreux sur l'économie. Ça reviendrait à déréguler le marché de la terre, le marché de l'emploi. Et tout ça, ça a des conséquences sociales et politiques qui sont extrêmement élevées. Et donc, à ce
avec
niveau-là,
le secteur d'immobilier qui s'est écroulé, mais un écroulement presque accéléré, en l'occurrence, par le régime.
Oui, absolument. Le régime a laissé le marché de l'immobilier s'écrouler parce qu'il sait bien que la bulle ne pouvait pas tenir. Le problème, c'est que il ne sait pas stimuler la consommation. Il ne veut pas stimuler la consommation pour des raisons idéologiques, de peur de donner de l'argent gratuitement aux Chinois. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de situation. Il n'y a pas de bonne solution autre que des réformes, mais les réformes vont être très, très coûteuses politiquement. Et donc, il y a peu de chances qu'on les voit intervenir.
Et la deuxième économie chinoise, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un prodige absolu.
Absolument.
En deux ou trois générations d'avoir édifié cette puissance économique. Que devient notre cognac français dans cette histoire?
Oh, je pense que le cognac français va avoir une année, deux années, trois années très difficiles.
Alors expliquez d'abord ce qui se passe.
Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que dans le contexte de l'investigation européenne sur les véhicules électriques chinois qui a été annoncée en octobre dernier, la réaction chinoise ne s'est pas fait attendre quelques mois après. Le ministre et le ministère du Commerce chinois annonçaient une contre-investigation qu'il prétend ne pas être liée à l'investigation sur les véhicules électriques, mais contre le cognac européen, dont je crois 95% ou 90% vient de France.
Bien sûr.
Donc il y a un lien très, très, très ténu ici, notamment parce qu'on se rappelle que la France avait été identifiée par Politico, mais en général, si on suit les déclarations de Bruno Bruno Le Maire et du président Macron, qui était très soutenu par le gouvernement français, cette investigation sur les véhicules électriques. Et donc, en rétaliation, en réponse à cette investigation, les Chinois ont ouvert leur propre investigation. Et de façon très intéressante, le timing de ces deux investigations est exactement aligné pour que si l'Europe met et décide de mettre des droits de douane sur les véhicules électriques chinois d'ici le 4 juillet, hein, c'est la deadline qu'on a en tête, les Chinois pourront dans la minute, si ce n'est dans la journée du moins, mettre leurs propres tarifs en place, leurs propres droits de douane en place sur le cognac, principalement français.
Marc Julien, cela nous ramène donc finalement à une marge de manœuvre très étroite de part et d'autre, finalement, autant du côté côté français que du côté chinois. Et le tout, encore une fois, dans ce contexte de pression du côté américain, qui, de façon contradictoire, c'est ce que vous nous expliquiez, voudrait qu'Emmanuel Macron arrive à tempérer les ardeurs pro-russes de Xi Jinping, mais qu'en même temps, Washington voudrait beaucoup que l'Union européenne continue de durcir ses propres réglementations vis-à-vis de la Chine.
Oui, c'est ça la position de la France. Vous le savez, c'est que la France est alliée avec les Américains, mais pas alignée. Et souvent, du côté américain, c'est un peu vous êtes avec nous ou contre nous. Donc il y a une volonté d'engager la France et l'Union européenne vraiment du côté américain, comme s'il n'y avait que deux camps possibles. C'est ce qui se voit également dans les stratégies indo-pacifiques et les différences entre les approches européennes et l'approche américaine, qui l'approche américaine beaucoup plus confrontationnelle, plus militaire, alors que l'approche européenne est beaucoup plus holistique, comprend aussi la question de la sécurité maritime, des problématiques migratoires liées au changement climatique, etc. Donc je pense que la vision européenne est sans doute, permettez-moi, un peu plus subtile et en tout cas plus globale que la vision américaine. Et donc c'est vrai que l'Europe doit à la fois gérer son propre agenda, mais aussi avec ce rapport de force avec la Chine et puis aussi avec certaines pressions américaines.
Mais des intérêts économiques qui ne sont pas ceux des États-Unis.
Oui, alors parfois on a même des mesures américaines qui impactent les intérêts des Européens. Mais je crois quand même qu'il y a une prise de conscience, hein, je parlais tout à l'heure de la tendance historique en Europe, quand même sur le fait qu'il y a une prise de conscience progressive avant 2019, depuis probablement 2016, notamment avec l'acquisition par une boîte chinoise d'une entreprise allemande, KUKA, en 2016, entreprise de robotique qui a été une sorte de coup de tonnerre dans le ciel européen. Et puis après, il y a eu en 2019 la qualification par la Commission européenne de la Chine comme un partenaire, compétiteur et rival systémique. Formulation d'ailleurs qui est honnie par la partie chinoise. Et donc la volonté, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que la mondialisation est sans doute arrivée à un pic. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas, nous Européens, faire de la mondialisation tout seul. Quand les États-Unis se referment et quand la Chine n'a jamais été ouverte, il faut que l'Union européenne prenne ses propres dispositions.
Et à un moment où le marché intérieur européen aussi a tendance à se fracturer. Il y a ce rapport très intéressant d'Enrico Letta, donc l'ancien président du Conseil italien, qui dit qu'il est urgent de ranimer ce marché intérieur et même de le renforcer, notamment sur le plan financier. François Schmitz, est-ce que il faut espérer que avec le président Xi Jinping à Paris, donc les 6 et 7 mai prochains, un entrepreneur chinois de voitures électriques promettent d'investir en France? On sait qu'il y a maintenant une usine BYD, donc BYD, l'un des champions de l'automobile électrique chinoise, qui construit une usine en Hongrie. Un autre constructeur, Chery, s'apprête à en construire une en Espagne. Est-ce qu'il faut souhaiter une telle annonce, un tel investissement en France ou pas?
Souhaiter, oui, l'annonce d'ouverture d'une usine, je pense. Alors, il faut regarder exactement ce qu'elle fait et quelle part de valeur ajoutée est réellement produite en France sur un secteur, les véhicules électriques, où on sait que le gros de la valeur ajoutée dans la chaîne de production se situe en fait au niveau de la batterie, plus qu'au niveau de la voiture. Et c'est là la différence avec bien évidemment les véhicules thermiques traditionnels. En l'occurrence, On peut l'espérer, il est peu probable que cela se matérialise. Comme vous l'avez annoncé, comme vous venez de le dire, en effet, le grand investissement espéré par les Français, qui était BYD, et qui avait donné lieu notamment à la visite de M. Le Maire l'été dernier à Shenzhen, au centre de direction de cette entreprise-là, a finalement été effectué en Hongrie. Et je pense, hélas, que cela vient une fois de plus corroborer l'approche profondément politique que la Chine a de la mondialisation en général et de son rapport à l'Union européenne en particulier. Parce que cela s'inscrit dans une concentration massive des investissements chinois dans les véhicules électriques en Europe, en Hongrie particulièrement. Avec bien évidemment toutes les difficultés que cela risque de poser en matière d'influence et de capacité de prise de décision autonome du côté européen, puisque sur toutes les questions d'affaires étrangères, l'Union européenne fonctionne avec l'unanimité jusqu'à aujourd'hui, et bien évidemment la Hongrie étant un des 27 membres, elle peut à elle seule bloquer énormément de décisions. Et d'ailleurs, elle ne s'en est pas privée par le passé, avec une sérieuse interrogation sur la réalité de ces alliances à elle, sous la présidence de M. Orban. Et côté français, alors il faut quand même savoir qu'on a obtenu pas mal d'investissements chinois en France sur des chaînes de valeur qui nous intéressent particulièrement. Et c'est notamment le cas pour les batteries, où vous avez plusieurs acteurs chinois, et notamment XTC, qui était l'autre entreprise que M. Le Maire était allé visiter à Shenzhen, qui a annoncé l'ouverture d'une grande usine à Dunkerque pour quelque chose comme 2 milliards d'euros, et en tout cas annoncé 2000 emplois nets créés. Donc c'est plus peut-être dans ces domaines-là, on va dire en amont dans la chaîne de valeur, qu'il faut espérer, ou en tout cas qu'il faut le plus concentrer nos efforts, à savoir par ailleurs qu'il existe en France tout un certain nombre de difficultés domestiques pour des grands projets industriels, notamment du fait de la nécessité d'avoir des très importantes surfaces au sol pour pouvoir construire de telles usines, et avec toute une structuration réglementaire autour Bien de sûr. La validation de ces usines qui, pour des acteurs chinois qui sont habitués, et je pense que l'exemple de l'usine Tesla est un peu le porte-étendard de ces pratiques-là, à pouvoir débuter une usine en janvier et commencer les sorties des premières voitures des chaînes de production en juin. C'est ce qui s'était passé avec Tesla. Ce sont des temporalités qui, bien évidemment, dans une Europe qui est plus régulée, qui a plus de préférences collectives vis-à-vis de la protection de l'environnement, des consommateurs, des travailleurs, n'est pas possible. Et donc, il faudra essayer d'acclimater les acteurs chinois à cet environnement réglementaire pour pouvoir approfondir ces partenariats économiques.
Stéphanie Balm, on arrive déjà à la conclusion de cette conversation. Et il y a une dimension qui est majeure dans nos démocraties, c'est évidemment leur perméabilité à toutes les entreprises de désinformation, et on sait que la Chine s'y est mise avec ardeur en copiant d'ailleurs beaucoup des procédés russes. Les élections européennes auront lieu début juin. Est-ce que c'est une dimension, selon vous, et je vous demanderai pardon de me répondre brièvement, est-ce que c'est une dimension qui devrait participer des conversations entre le président Macron et le président Xi Jinping?
Beaucoup de sujets ont été évoqués sur cette relation ultra-politique qu'il convient de dépolitiser, pour répondre rapidement à votre question. Et c'est aussi un des enjeux d'Emmanuel Macron de s'assurer que la Chine, le sujet chinois, ne soit pas à l'agenda politique trop ferme, trop ouvertement des futures élections européennes, parce que on s'aperçoit que le Parlement européen est de plus en plus pro-taïwanais, qu'il est souvent assez favorable à certaines politiques dures américaines à l'égard de la Chine, et que jusqu'à présent, si le sujet chinois ne faisait pas partie de l'agenda des sujets qui intéressaient les électeurs européens, probablement le cas est différent aujourd'hui. Donc tout l'intérêt qui consiste à dépolitiser au maximum une relation ultra-politique, c'est un test très très difficile, et seule la relation avec la Chine offre ce laboratoire, j'allais dire.
Eh bien, nous y reviendrons avec vous, bien sûr, Stéphanie Balm. Je vous remercie d'avoir participé, même à distance, à cette émission. Et je signale le texte que vous avez publié dans la revue La Recherche, « Le rêve chinois d'hyperpuissance ». Scientifique. Je remercie bien sûr Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI, et vous avez publié précisément dans le Ramsès 2024 le chapitre sur la Chine, tout changer pour que rien ne bouge. C'est l'aspect radical socialiste, en quelque sorte, du régime chinois. Je remercie aussi Agatha Kratz du Centre Rhodium et François Schmitz qui a publié un papier sur la politique de dérisking vis-à-vis de Pékin, la politique européenne. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique... Cédric Chatelus, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Voici maintenant Nora Hammadi sous les radars et je vous retrouverai avec plaisir samedi prochain.